Je vous ouvre cet après-midi les portes de ma playlist Crazy Disco Nights.
Oh. Big disco everybody's talking about.
Stop! Stop, on me signale en régie que tout ça est beaucoup trop sexy et beaucoup trop disco pour les auditeurs d'Interpromis. On s'écoutera un petit Vincent Delerme tout à l'heure. Mais d'abord, bonjour, c'est Rob.
Bonjour.
J'adore cette émission du vendredi, on se replonge dans une année marquante de l'histoire, mais alors 1977, avec vous, je suis sur un petit nuage. Céron, vous êtes la preuve vivante que, comme notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, le disco ne meurt jamais. Il traverse les époques, votre musique en témoigne, 50 ans de carrière, 5 Grammy Awards, des millions d'albums vendus. Vos tubes Supernature, Give Me Love sont joués partout dans le monde, jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris en juillet dernier. Vous pourriez vous reposer sur vos lauriers, comme Patrick Hernandez, qu'on embrasse. Non,
surtout quand
on l'embrasse, évidemment.
C'est pas gentil.
C'est un ami. Non, vous revenez avec Disco Symphonie qui sera disponible le 21 février. C'est votre nouvel album. C'est quoi l'idée de ce nouveau disque ?
C'est pas un nouvel album, parce que c'est 21 ou 22, je sais plus exactement le nombre de titres, que j'ai refait et pas du tout réorchestré. J'ai voulu garder vraiment l'origine de mes albums avec les cordes, les cuivres que j'avais fait à l'époque. Et en fin de compte, ça, c'est la ville de Nice qui ont un concept qui s'appelle C'est pas classique, qui m'ont appelé il y a un an et demi pour me dire qu'ils avaient repris avec l'orchestre symphonique de Cannes. Ils avaient repris le catalogue de Prince, de Bowie, de Gainsbourg, et ils m'ont demandé si j'étais prêt à me prêter au jeu. En plus, m'ont-ils dit, la cerise sur le gâteau, vous êtes encore vivant, vous.
Donc, un petit plus.
Sympa.
Un sacré plus.
Donc, bref, je me suis prêté au jeu et surtout de respecter les orchestrations originales. Sauf Supernature.
Ah,
Supernature,
là, j'ai, tout à l'heure, oui. Là.
Ah, bah, j'ai été obligé de me laisser m'évader un petit peu, de le faire un peu grandiose, quoi. Vu que je savais que j'avais un orchestre symphonique derrière. Ouais. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que c'est devenu la musique de clôture des JO.
Clôture des JO, on y reviendra, cette séquence assez incroyable. Avec vous, Céron, on va revenir sur cette année 77 marquée par deux événements, l'ouverture d'un club mythique à New York, le Studio 54, et bien sûr la sortie de Supernature. Si on vous avait dit à cette époque que ce titre serait joué aux Jeux Olympiques de 2024, vous auriez répondu quoi à la personne qui vous dit ça ?
J'étais tellement persuadé déjà, deux albums avant Love in C Minor, c'était en 76, j'avais fait le titre, il faisait 16 minutes 30 de long, avec mon pied de batterie que j'avais appris à l'époque, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Congas, il y avait des percussionnistes pour que les percussions partent en solo, je faisais ce beat quoi, tous les temps. Qui aurait pu imaginer que 50 ans de musique, ce pied allait marquer? Qui aurait pu imaginer que j'allais faire un deuxième, un troisième? Je dois être au 30e album, bien sûr que... C'est quand je regarde derrière, ça me fait peur. Je me dis, si c'est ça à faire, je ne vais jamais y arriver. Quoi.
Bon,
ça va, c'est fait.
C'est fait,
c'est, bon.
C'est fait. 1977 avec la légende du disco, Céron de retour avec un album symphonique Zoom Zoom Back. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, c'est vendredi, c'est Zoom Zoom Back, on ajuste le rétro et on se replonge dans une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, direction 1977, la fièvre du disco atteignait son paroxysme. Thelma Houston chante « Don't leave me this way », ne me quitte pas comme ça. Hélas, Cyril, notre rédacteur en chef, reste sourd à sa supplique et la quitte bel et bien pour... Oui, c'est une romance qui a été peu documentée. Pourtant, dans son autobiographie, Clo-Clo et moi, on avait choisi la formule offensive. Cyril est sans ambiguïté. Il a été avec Claude François à l'été 77. Clo-Clo, qui très vite lui avait même dit...
Voici les clés, ne les perds pas.
Voici les clés, comme disait Gérard Normand en 77, Normand, toujours évidemment. Le Normand, évidemment. Ouais. Malheureusement, entre Cyril et Clo-Clo, très vite la passion se délite et il lui demande de rendre les clés. Pendant deux semaines, Cyril va errer dans la rue, tel un vagabond. Pour subsister, oui, il est obligé de jouer comme d'habitude à la flûte à bec. Mais il joue si bien que son petit chapeau se remplit vite et bientôt, il peut enfin se payer une nuit au chaud à l'hôtel. Malheureusement, il se plante d'hôtel. Et oui, c'est aussi en 77 que sortait Hotel California des Eagles, un millésime décidément exceptionnel pour la musique et surtout, surtout, pour le disco. Zoom Zoom Back en présence de Céron. C'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Alors, mon cher Céron, on va parler de 77, on va aussi parler de Disco Symphonie qui sera disponible le 21 février. Juste le temps de vous présenter mes sympathiques collègues, Manon Mariani. Chaque vendredi, vous nous racontez l'histoire d'une première fois.
Oui, en 1977, c'était la première fois que des gens entendaient cette musique au cinéma.
Tout à fait.
Le premier Star Wars sortait en salle, un carton que personne n'attendait. Je reviens sur ce phénomène intergalactique en fin d'émission.
Lui aussi est à sa manière un phénomène intergalactique, puisque chaque vendredi, il réussit le prodige de ne pas tourner une paille à l'envers, mais de réussir quand même à sortir une chronique en faisant bosser les autres, en l'occurrence les gens de l'INA, Quentin.
Si vous saviez le temps que je passe à monter des sons, Mathieu, sur bande, des extraits de 10 minutes que je réduis à 20 secondes, et vous pouvez pas savoir.
On va pas vous plaindre.
Vous ne pouvez pas savoir, vous ne savez pas monter.
Ah, ça c'est vrai.
Bref, le procès de Patrick Henry, la mort d'Elvis et les femmes qui travaillent. Mais pourquoi faire ? C'était en 77.
Très bien. Il s'en est passé des choses en 77. Oui. Censeur 17 dans les archives de l'INA, dans la tête de Cérone, dans les coulisses du studio 54. Tout à l'heure, Camille Diao nous parlera aussi des Sex Pistols. Et Charles Nouveau me rappellera avec cruauté que n'étant pas né en 77, je n'ai pas pu connaître les joies du studio 54. J'ai dû me contenter, comme lui, des joies du Platinum, un des pires clubs que l'homme ait jamais imaginé, qu'on fréquentait à Genève au tournant des années 2000. Mais d'abord... Zoom Zoom Back, objectif 1977, ouverture du club new-yorkais mythique, le Studio 54, et sortie du non moins mythique Super Nature de notre invité Cérone. Cérone, 77, c'est quoi ? C'est l'âge d'or du disco ?
Oh, ça a démarré en 60, ça a fait 75-79, c'était une période incroyable. Très créative, il n'y a pas que dans la musique, vous parliez du cinéma, que ce soit dans la mode vestimentaire, dans les meubles, dans les couleurs. Ça a été très, 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 très riche comme période. Et évidemment, je faisais partie de certains un petit peu... je poussais les meubles, quoi, un peu contestataire, un peu provocateur, mes pochettes. Puis en plus, la disco, à l'époque, c'était pas très fréquentable pour tout le monde. C'était la nuit, le sexe, la drogue. La pilule était arrivée il n'y a pas longtemps. Notre éducation, c'était les peace and love. Donc, c'était une année... Il y en a qui ont dit débauche. Moi, je dirais découverte. On a vraiment poussé les meubles, quoi.
Un mot sur la création de ce tube incroyable, Super Nature. Comment j'ai fouillé un peu sur Internet et j'ai vu une interview vous expliquer que vous aviez reçu en fait une sorte de petit synthé Odyssée, je crois, comme ça. Quelque chose.
Oui, c'est pas un petit, c'est un gros. Comme tous les artistes ou les producteurs qui ont du succès, les nouveaux instruments, on vous les envoie. Si vous les testez, que vous aimez, vous mettrez un crédit.
Ah, oui.
C'est important. Et à la découverte de ce synthé Odyssée. Déjà, je n'ai pu que trouver le fameux séquenceur qu'on connaît. Et j'ai changé de note parce que ça commençait à devenir encombrant, donc en cherchant les sonorités. Puis je me suis tombé sur ces deux accords et qui ont commencé à me prendre la tête. J'ai fait une basse, que c'est la basse de Supernature. Au micro, j'ai chanté la mélodie et j'ai montré ça à mes équipes.
Et les gens me disent que c'est en une après-midi que ça a été composé.
Oui, je l'ai composé en une après-midi.
Ah oui, ouais.
Bien rentabilisé.
Mais ça n'a pas été facile. Puis j'étais entouré quand même de gros talents. On ne fait pas les choses seules. Entre Lena Lovitch, qui a fait un texte tellement à la mode aujourd'hui, pour dénoncer un petit peu, on n'est plus ni homme, ni femme, ni animal. Enfin, je veux dire, on va dans tous les sens.
C'est vrai que c'était précurseur.
C'était un peu précurseur. Et puis un arrangeur, Raymond Donnez, de folie. Et puis un mec qui s'appelle Alain Wisniak, qui m'a fait des sons, qui m'a fait des choses incroyables. C'est pour ça que 50 ans après, ça sonne encore, quoi.
Ça sonne encore jusqu'aux Jeux Olympiques, où votre titre est quand même passé.
Jusqu'aux Jeux Olympiques.
Cérémonie d'ouverture. Comment ça s'est passé ? On vous a contacté, vous avez dit oui directement ?
C'est Victor Lemaine qui a demandé de me voir. Donc je l'ai invité à mon studio. J'étais à 15 jours de faire le concert symphonique de Nice, dont je vous ai expliqué avant. Et il venait me raconter qui en fin de compte ils allaient prendre Give Me Love dans les JO, donc content, super. Et puis après et il me dit qu'est-ce que tu fais maintenant, je lui raconte mon projet qui arrive dans 15 jours, il me dit mais comment tu fais avec Supernature. Ben voilà,
comme ça.
Donc je dis écoute, je me suis permis, voilà, tiens je te fais écouter. Il me dit ouais fais-moi écouter. J'ai fait écouter un petit bout et là il me dit écoute, fais-moi une copie parce que j'ai une idée, je peux pas t'en parler mais j'ai une sacrée idée. Je lui file une copie, il s'en va, il se passe 15 jours, moi j'ai la pression du concert qui arrive. Et juste avant Noël, un peu comme un papa Noël, avec sa hutte bien pleine, il me dit écoute, faut qu'on dîne, faut que je te raconte quelque chose. Et il me racontait qu'en fin de compte, à l'unanimité, le comité avait choisi que Supernature célébrera la finale de l'ouverture des JO. Et il me dit, t'as fait lancer le monde entier, la Tour Eiffel, tu vas voir. Et j'ai vu, c'était incroyable.
Magique.
Cérone, Supernature, en version symphonique, c'est maintenant sur Inter.
We would feed the hungry fields. till they couldn't eat no more. But the potions that we made touched the creatures down below.
Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Ah là là, est-ce qu'on n'était pas mieux en 1977? Les DJ, comme ici le légendaire Larry Levan au Paradise Garage, mixaient vraiment en live, le sida n'avait pas encore débarqué, tous les voyants du fun étaient au vert, et surtout, notre invité venait de s'installer à New York, Céron. 77, est-ce que c'est une année, c'est celle qu'on a choisie aujourd'hui, c'était le prétexte pour vous avoir, est-ce que c'est une année à laquelle vous repensez parfois, qui vous a vraiment marqué? Vous vous installez à New York en 77?
Je m'installe, c'est-à-dire que la maison de disques, le premier en France, personne ne voulait sortir cette musique, donc le seul moyen c'est d'avoir fait des vinyles, et des vinyles se sont baladés dans le monde et sont arrivés aux États-Unis. Ça a été un énorme succès, évidemment. J'ai mis les mains dedans, puis en fait, ça a duré. Mais...
Et en France, comment ça s'est passé? Parce que là, c'est aux États-Unis. Ouais. Mais...
Par ricochet. Et ben, c'était pas... Ils ne pouvaient pas passer à côté, c'était partout. Oui. Donc, par ricochet, oui.
Céron, on va aussi parler de votre héritage, si on écoute ça.
Ça ne marchera pas.
Et, quand... et qu'ensuite, on écoute ça. Les Daft Punk et leur hommage à un autre géant, Giorgio Moroder. Quel regard vous portez sur les nostalgiques, les artistes nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue? Random Access Memory, des Daft Punk, vous avez dû l'entendre. Est-ce que ça vous a plu?
Moi, je trouve que c'est, je suis assez fier, ça les a vachement influencés, quoi.
Ils vous l'ont dit? Ils vous l'ont formulé?
Bien sûr, les Daft ont dit, ils sont venus clairer. Évidemment, le nombre de samples que j'ai pu avoir, qui m'a associé d'ailleurs à des titres nouveaux. C'est pour ça que je dis souvent, je leur dois beaucoup au DJ, à tout cette French touch qui veut vraiment dire quelque chose dans le monde. Aujourd'hui, quand je peux parler dans des studios ou dans des gros musiciens ou quoi que ce soit, être français, faire de la musique, c'est presque comme dans le parfum ou dans les vêtements, c'est sophistiqué, quoi. C'est, il y a quelque chose à tirer. Donc, ils sont très, la French touch veut vraiment dire quelque chose aujourd'hui. C'est pas du marketing, c'est pas du pipo.
Vous les avez influencés, mais vous, en 77, qui vous avez influencé?
Oh, moi je venais tellement du de l'afro rock avec Congas, donc Santana, Chicago, Led Zeppelin avec qui j'ai eu la chance de, il est venu jouer pour moi, Jim Page. Enfin, je veux dire, j'étais influencé plutôt du rock.
Et le studio 54, c'est l'ouverture aussi en 1977. Vous l'avez fréquenté?
Oh, beaucoup. Quand on me disait en France, il y a aussi le Palace, tu vas voir, machin. Donc quand je passais quelques fois en France, évidemment j'allais au Palace, rien à voir. Au Palace, les gens allaient se faire voir, fallait se montrer, c'était de l'exubérance, mais pour avec se montrer, au studio 51, donc c'était l'exigence pour se lâcher. C'était
lâcher prise.
Si une nana venait en soutien-gorge et petite culotte, c'était pas pour aguicher ou pour montrer qu'elle le faisait. C'était à avoir envie de se lâcher, quoi. Et puis les discothèques, on était contents parce que c'était pas ouvert à tout le monde. Mon copain Al Rogers, d'ailleurs, on a fait un titre qui s'appelle The Freak.
Ouais. Ouais.
Ah, oui. Il était jeté à la porte. On voulait pas de musique populaire. Dès que les titres comme vous avez passé tout à l'heure Claude François ou Dalida, est-ce qu'il y a ça? Et bien il y a un mouvement d'ailleurs qui s'est appelé Disco Soc, qui fait partie de 79. Ils ont pris un stade et ils ont cramé tous les hits pop faits à la sauce disco. C'est pas ça la disco.
Lui, il n'a pas connu le dance floor du studio 54, il a connu le dance floor du Bayocos, la boîte la plus sélecte d'Alençon, si tant est que cette formulation ait un sens. Chacun sa génération, chacun sa croix, personne ne vous juge, Quentin, chaque vendredi. Et on vous comprend, vous fuyez le présent pour partir à la découverte d'une autre époque plus rieuse. Aujourd'hui, un complètement aux archives, complètement 1977.
Et une bonne année démarre toujours par de bons vœux.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et bonne année 1977 pour la France et pour vous tous.
Des vœux de Giscard, et le 20 janvier, donc quelques jours après, un procès va marquer l'histoire.
Réclusion criminelle à perpétuité pour Patrick Henry. L'assassin du petit Philippe Bertrand a donc sauvé sa tête cet après-midi aux Assises de l'Aube. La peine de mort avait été réclamée par l'avocat général Fraisse, et c'est sans doute la plaidoirie de Maître Badinter, farouche adversaire de la peine de mort, qui a pu impressionner le jury, qui a estimé dans son âme et conscience que Patrick Henry devait bénéficier des circonstances atténuantes.
Le tribunal de Troyes et la plaidoirie historique de l'avocat Robert Badinter qui pose déjà les fondations de ce que sera 4 ans plus tard l'abolition de la peine de mort. En 1977, on pose une question dans la rue.
Que pensez-vous des femmes qui travaillent ?
Ah bien, les femmes qui travaillent, si elles ont besoin de ça pour aider le ménage, d'accord ? Mais une femme qui reste chez elle, c'est aussi bien.
Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui travaillent ?
C'est bien, mais enfin, ça prend le boulot des hommes, quoi.
Je préfère la femme à la maison. Et le monsieur travaille.
Pourquoi ?
Parce que quand il rentre le monsieur, il trouve tout prêt. Son linge, son lit, sa cuisine, ses enfants.
Bon, heureusement, on a un peu évolué.
Les enfants sont prêts.
On a un peu évolué. Le 21 juin 1977, dernier concert du King.
And now, the end is near. And so I face the final curtain.
Elvis Presley meurt à peine 2 mois plus tard, le 16 août 77, une crise cardiaque alors qu'il était aux toilettes. Le King mort sur le trône, souriront certains. Le King still alive sur une île, diront d'autres. Cette année-là, autre disparition. Gérard Holtz ouvre le journal d'Antenne 2 avec cette information.
Charlot est mort. Charlie Chaplin s'est éteint au cours de la nuit de Noël dans son manoir près de Genève, à l'âge de 88 ans. Charlot, le petit homme vagabond au chapeau melon, à la petite moustache. Charlie Chaplin, dont certains ont dit qu'il était le Molière des temps modernes.
Les temps modernes, le dictateur, la ruée vers l'or, le héros du muet se tait à jamais ce 25 décembre 1977. Au cinéma, justement.
Pourquoi vous voulez boxer ?
Je sais ni chanter ni danser. Yo ! Et tombez pas !
Trois Oscars pour le film écrit et incarné par Sylvester Stallone, la bande originale de Rocky qu'on entend, qui deviendra le générique d'une émission de radio qui naît cette année-là,
c'est vrai.
Les Grosses Têtes, qu'on embrasse, pas trop non plus. Le 27 mars, un drame dans un aéroport aux Canaries, une collision aérienne.
Deux Boeing 747, les plus gros avions commerciaux existants actuellement, se sont heurtés hier soir sur la piste d'envol de Santa Cruz de Tenerife aux Canaries. Les deux avions ont pris feu. Premier bilan, plus de 500 morts et des dizaines de blessés.
583 morts et 61 survivants miraculés, ça reste à ce jour la pire catastrophe de l'histoire de l'aviation. 1977, c'est aussi un retour attendu.
Depuis 8 ans, on attendait ça, le nouveau Brel va sortir, le nouveau Brel sort, le nouveau Brel est sorti.
Les Marquises, le dernier album de Jacques Brel qui dédie aux Marquises, cet archipel de la Polynésie française où il vit depuis 2 ans. Dans cet album, 7 chansons sur l'amitié entre Brel et son ancien chauffeur de tournée.
Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain.
Je pensais humblement que c'était l'événement musical de l'année, mais non. Et juste pour faire plaisir à Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, dernière archive.
Succès musical pour la France hier soir à Londres, grâce à la chanteuse Marie Myriam, qui a remporté le concours Eurovision de la chanson 1977 avec L'oiseau et l'enfant.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
48 ans plus tard, c'est la chanteuse Louane qui va défendre les couleurs de la France à l'Eurovision. Et c'est sur cette musique que les parents de nos parents avaient sur cassette que je referme les archives de 77. Céron, il y avait deux mondes à l'époque, la variété française, l'Eurovision par exemple qu'on entend, et la vôtre, la disco, le début de l'électro aussi, et Claude François un peu entre les deux. Vous vous souvenez de ces deux mondes qui ne se rencontrent pas finalement ?
Ah bien sûr, oui, ça c'est le souvenir le plus flagrant que j'ai des années 70, oui.
Céron est avec nous cet après-midi pour évoquer cette incroyable année 77. On l'a dit, Céron 77, c'est le début du Studio 54, mais c'est aussi votre arrivée à New York. Ce Studio 54, on a compris qu'il s'y passait des choses, vous ne pouvez pas tout dire ce qui s'y passait, mais vous pouvez nous dire qui vous y croisiez à l'époque. Il y avait des personnalités extrêmement célèbres. Warhol, par exemple, il était au Studio 54.
Oui, en plus, on était dans les carrés vifs, un peu tous ensemble, on était tous un peu des provocateurs, que ce soit Warhol, Bacchia, Good, Gautier.
Tout ce monde se retrouvait là.
C'était... Vous savez, même aujourd'hui, quand on est dans un club aujourd'hui, il y a des carrés VIP, mais qu'est-ce qu'on met dans les carrés VIP ? Les VIP, comme son nom l'indique. Donc, au bout de X heures que vous passiez dans la soirée à picoler et autre chose, évidemment, on se croise, on se côtoie, on se revoit le lendemain, on fait des fêtes, ouais. Ça dure, quoi, évidemment.
Gautier, par exemple, c'est quelqu'un que vous revoyez encore aujourd'hui ou c'est des amitiés vraiment très 70s ?
Très 70s, ouais. Bien évidemment, oui. Bah,
c'est pas des amitiés en longue durée.
Non.
Pour remettre dans le contexte...
Vous savez, l'amitié dans les clubs, je crois pas...
C'est toujours un peu éphémère, on est d'accord. Pour remettre dans le contexte, le Studio 54 ouvre à Manhattan, dans une période où Manhattan était un peu malfamé. Comment vous retrouvez là-bas, du coup ?
Ah, chauffeur obligatoire, parce que je me souviens qu'à partir de 18h, tous les croisements des feux rouges passaient tous à l'orange, et je me demandais pourquoi il n'y a plus de feux rouges, plus de feux verts. Je me dis, parce qu'on ne s'arrête pas, c'est dangereux, les gens pouvaient vous attaquer pendant que vous êtes dans la voiture, quoi. C'était chaud, en plus Broadway était... C'est là où il y avait des dizaines et des centaines de sex shops, c'était chaud. Hein.
Ouais, okay.
La ville a été, quand il y a eu la libération, un petit peu, l'éducation, peace and love, et la libération, la pilule qui arrive, New York, Broadway a été
Le précurseur.
J'aime bien, il me regarde avec les yeux.
J'essaie de vous distinguer derrière vos lunettes, j'essaie de sentir votre regard. J'ai retrouvé une photo assez dingue. On parlait du carré VIP du Studio 54. Il devait être énorme, le carré VIP. J'ai retrouvé une photo avec Michael Jackson entouré des Village People, de Jane Fonda et Bruce Jenner à ses côtés.
Tout à fait, ouais.
C'était ça, le Studio 54. Je précise qu'il y a deux personnes qui sont certainement jamais entrées au Studio 54. C'est Marie Myriam en 77. À mon avis, elle a trouvé porte-close. Et ma maman, je lui ai demandé parce qu'elle vivait à New York dans les années 70.
Et elle n'a pas pu rentrer.
Non, elle n'a pas essayé. Elle m'a dit. À l'époque, elle n'était pas très tendance, certainement comme son fils aujourd'hui. Mais elle me dit désolée, parce qu'elle pensait que je voulais une anecdote, je ne sais pas. Donc, c'est pas grave, maman, de ne pas être allé sur 54.
Mais c'était pas très grand. Hein,
il y était tous les soirs, c'est mieux.
Ouais. On s'est rattrapé avec Mélanie.
À suivre, deux personnages ont fait l'objet d'un culte pour leur perfection capillaire, Manon Mariani et sa fameuse raie, et la princesse Leia dans Star Wars pour ses fameux macarons. Oui,
j'ai inspiré.
77, c'est la sortie du premier volet, enfin le quatrième, mais vous m'avez compris, de la guerre des étoiles. Manon nous raconte cette première fois juste après The Weeknd, Cry for Me. Inter.
I can't hide the truth.
life with you, end of time with you. Now we're strangers and I hope that you still cry for me like I cry for you. Every night for you, I've been living with this smile. Now I can't hide the truth, I can't hide the truth. Girl, I cry for you, girl, I cry for you, oh yeah. Every time I hit the road, it takes a little piece of me, kills me slowly. When I needed you the most, you always gave me sympathy. Now you're over me. Now you're better on your own. It ain't a fucking mystery. You've been showing me. Now I've been burning up my home, baby. I've been burning up my home. And I hope you cry for me like I cry for you. Every night for you, take it easy on me, baby.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
La légende dit que lorsqu'elle a trop traîné dans les bars à shots, elle parle comme Maître Yoda dans Star Wars.
Ah ça, c'est pas une légende.
Cul sec, j'ai bu. Bourré, je suis. Uber, vite, appelez pour moi. Mais non, Mariani, c'était logique qu'aujourd'hui, alors qu'on zoome sur 1977, vous nous parliez d'une première fois qui va marquer l'histoire du cinéma.
Au printemps 1977, les cinéphiles sont impatients. Dans quelques mois, le nouveau film de Steven Spielberg va sortir après le succès des Dents de la Mer. Ils attendent également les prochaines aventures de l'agent 007, l'espion qui m'aimait avec Roger Moore. Mais pour patienter, certains amateurs de science-fiction s'amassent dans les salles obscures pour regarder un film à l'introduction démentielle. Un fond noir, du texte jaune, une musique qui détonne. Les spectateurs américains découvrent émerveillés Star Wars, la guerre des étoiles, réalisée par George Lucas. L'histoire d'une galaxie très très lointaine où deux camps s'affrontent, l'Empire dirigé par le maléfique Dark Vador et l'Empereur Palpatine, et l'Alliance Rebelle avec la princesse Leia qui lutte pour restaurer la liberté. À ses protagonistes vient s'ajouter un petit fermier du nom de Luke Skywalker qui va devenir l'un des plus grands Jedi. Plus qu'une histoire, c'est un véritable univers que va découvrir le public en 1977. Des planètes aux noms étranges, des navettes spatiales aux formes bizarres, des robots qui parlent, des sabres laser, des combats épiques. Star Wars est un succès immédiat. Et pourtant, à sa sortie, le film n'est diffusé que dans 37 salles américaines, ce qui est très peu à l'échelle des États-Unis. Mais en une semaine, Star Wars crée la surprise et bat des records au box-office. Les Américains font la queue devant les cinémas pour aller le voir.
Why are you waiting in such a long line for to see a movie?
Well, I'm a real science fiction fan. I've got hundreds of science fiction books at home, and I think this is going to be a science fiction class.
Je pense que ça va devenir un classique de la science-fiction. J'ai envie de dire, il croit pas si bien dire. Star Wars deviendra le plus gros succès du cinéma mondial de cette année-là et de très loin. Et aujourd'hui, c'est même le quatrième plus grand succès de tous les temps. Et pourtant, le film n'aurait jamais pu exister. Retour en 1973, 4 ans avant Star Wars. George Lucas sort son nouveau film American Graffiti sur la jeunesse américaine de l'époque. Les critiques l'encensent et le film cartonne en salle. George Lucas commence donc à se faire un nom et il veut profiter de son succès pour vendre son prochain film. Il a une idée en tête, réaliser un film de science-fiction. Il veut d'abord adapter le comics Flash Gordon, mais les droits sont beaucoup trop chers. Du coup, il se penche sur une histoire sortie tout droit de son imagination, une sorte de mythologie intergalactique pensée sur plusieurs films, mais les studios de production ne sont pas convaincus. Les films de science-fiction coûtent beaucoup trop cher et ne rapportent pas beaucoup. Heureusement, il finit par trouver preneur. La Century Fox veut bien signer son film. Pour la convaincre, George Lucas lui a proposé un deal assez unique. Ne pas être payé comme réalisateur, en échange, toucher les royalties du merchandising.
Oh,
et oui,
c'était bien vu, ça.
La Fox,
oh,
la Fox signe sans savoir évidemment à côté de quoi elle va passer. La conception du film est éprouvante. Le scénario change souvent, le tournage prend du retard, la Fox n'est pas contente. Mais George Lucas veut que tout soit parfait, notamment un élément clé de son film, les effets spéciaux. Pour arriver à ses fins, il crée sa propre société d'effets spéciaux et met sur pied le Dijkstraflex. Alors c'est un système révolutionnaire de contrôle de caméra qui permet de se mouvoir sur différents axes grâce notamment à une grue. Pour l'époque, c'était une invention totalement novatrice et qui va faire la différence dans la réalisation de Star Wars. Petit à petit, le film va commencer à ressembler au rêve de George Lucas quand il est monté. Il organise même une projection privée avec ses deux amis réalisateurs de l'époque pour connaître leur avis, Brian De Palma et Steven Spielberg. Les deux sont emballés. Spielberg lui prédit un succès et lui donne le nom d'un super compositeur avec lequel il a travaillé sur Les Dents de la Mer. John Williams vient ajouter la touche finale au film, la musique magistrale évidemment. Vu le succès du film, la Fox s'empresse de signer les deux suivants. Du coup, un sous-titre va être ajouté à Star Wars en 81 pour qu'on comprenne l'ordre chronologique de la saga. Épisode 4, un nouvel espoir. George Lucas expliquera plus tard que s'il a commencé sa saga en plein milieu, c'est parce qu'il déteste les débuts. Un choix audacieux et j'ai envie de dire payant. Au final, ce premier volet a généré 70 fois plus d'argent que son budget initial et il est devenu une véritable référence, évidemment, quand on parle de blockbuster. En 2012, George Lucas a vendu Lucasfilm à Disney pour 4 milliards de dollars, j'ai envie de dire. La force est toujours avec lui.
Je suis ton père.
C'est Laurent Baffy.
Ça va pas. C'est Ron, vous vous rappelez, vous
de, en tout cas, c'est très intéressant.
Ah, merci.
Et on a appris plein de trucs, là, Manon. Oui. Pourtant, je m'étais intéressé à Star Wars.
Je vais me sentir plus cultivé.
Ah, mais c'est le but. C'est le gai savoir de Zoom Zoom Zen, voilà. C'est ça.
Vous vous rappelez de la sortie de Star Wars, John Williams, pour vous, qu'est-ce qu'il
y a? Il y a un autre film en 77 qui a cartonné, que j'ai adoré, qui s'appelait Apocalypse Now.
Ah bah oui, quelle année.
Et là, les polémiques, c'était quelque chose de très, très populaire et quelque chose de très, très polémique. Mais une fois de plus, je me répète, cette période a été incroyablement créative.
Et la musique du film, quand même, de Star Wars.
Bah oui.
Ça fait toute la différence.
Bah absolument.
Vous avez jamais été contacté par le cinéma pour faire des musiques de films?
Si, j'en ai fait quelques-unes, mais c'était pas de cette dimension, donc j'ai pris ça de plus que ça, être sérieux. J'ai fait la série des musiques de films français qui s'appelait Brigade Mondaine.
Ah oui.
Et les albums, donc il y avait un album ont très 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 bien marché, et, par rapport au film, ça n'a rien à voir.
C'est la mais musique qui a mieux marché.
Voilà.
1977, l'apogée du disco, l'année de l'ouverture du mythique Studio 54, l'année du triomphe de Cérone avec son album Supernature. Il est avec nous cet après-midi, une semaine avant la sortie de Disco Symphonie. Cérone, on parlait des personnes qui se retrouvaient au Studio 54. Il faut parler de ce qu'on pouvait y faire aussi dans ce Studio 54. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça en boîte. On parle de drogue, évidemment. On parle aussi
de sexe. Vous croyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de drogue dans
Non, mais il y en avait de manière beaucoup plus ouverte, non? C'était pas on se cachait pas du tout, quoi.
Non, je me souviens de rentrer des fois dans les toilettes, sur le rebord de papier.
Ah oui.
Il y avait des lignes. Ça m'est arrivé aussi il y a quelques semaines.
Oui, alors, qu'est-ce qui était si différent?
C'est la même différence que dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, entre le Studio 54
et
le Palace. C'est pas la même attitude. C'est vraiment comme si c'était un peu à la maison de faire la fête. Donc, on n'est pas à l'extérieur. Vous pouvez pousser, vous pouvez faire n'importe quoi. Et puis, les endroits où on va pour se faire voir, et puis se faire voir ou voir, c'est pas la même chose.
C'est pas le même esprit. À mes yeux, vous le savez, on manque aujourd'hui de disco. Je propose qu'on en écoute un peu un extrait de votre album Disco Symphonie qui sort vendredi prochain, je le rappelle, un peu de Love in C mineur. Ça, c'est Ron, un de vos premiers tubes.
C'est mon premier.
C'est le premier
Love
tube.
Love in C mineur en automne 76.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la conception de ce morceau?
Ah, la vision qu'était, c'était de faire de la musique pour ces endroits qui était en train de naître, et on a, loin de là de les appeler disco. C'était faire presque de la musique de film, quoi, la musique d'ambiance. Mais ma culture, je me répète, vient de ce groupe Congas qui était très perk. Donc on endiablait, pour employer une vieille expression, on endiablait le public avec ses côtés très, très développé, très lancinant, qui dure longtemps.
C'est lancinant, c'est hypnotique, et si je peux me permettre, peut-être le plus que vous avez eu par rapport aux autres, c'est que vous êtes un vrai musicien, vous êtes un vrai batteur, et c'est ce rythme, peut-être la marque
bien
de fabrique,
sûr,
la première marque de fabrique de Seron, c'est le rythme.
C'est ce que, si j'ai amené quelque chose dans la musique, oui, c'est ma manière de jouer de la batterie, oui. C'est ce beat tous les temps, et ce groove. Si je regarde tous les samples que j'ai pu avoir, on a dépassé les centaines, c'est toujours ça que les gens, que les DJ vont choper. Ils vont pas choper des mélodies ou des... ils chopent ce groove, quoi.
Ben non.
Comment ça a été de travailler, là, sur votre nouvel album, avec un orchestre symphonique ?
Oh, c'est simple, j'ai un super chef d'orchestre qui s'appelle Randy Kerber, qui a fait Titanic, qui a fait, si vous tapez sur Google, Randy Kerber, ça fait peur.
Ouais.
Et on s'échangeait des choses, moi je faisais des choses pour lui, lui pour moi, on s'est envoyé par Internet, et je lui ai dit que je faisais ce projet, il m'a dit, oh, j'aimerais bien, je n'osais même pas lui demander, ça allait me coûter, mais en fait, quand on l'a fait pour le plaisir de musicien, parce que c'est pas facile à dire, je suis pas certain qu'un français chef l'aurait accepté, t'as rien à dire, t'as simplement à conduire, c'est-à-dire en clair, pas d'arrangement de cordes, pas d'arrangement de cuivres, je veux les originaux. Donc c'est difficile, ça veut dire qu'il devient un exécutif. Et voilà quoi.
et ça vous a permis, vous, de vous replonger dans ces morceaux-là ? C'est quelque chose que vous aviez fait déjà ? Vous aviez...
Alors, vous savez, faire une longue carrière, c'est obligatoirement aller jalonner d'opportunités et de chances. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage, il y a 12, 13 ans à peu près, qui m'ont largement convaincu de prendre des platines. À cela, j'ai pris, pas une insulte, mais j'attendais, je suis musicien, je vais avoir l'air de quoi ? Le mec qui fait son cachon en fin de mois, non, j'y vais pas. Et j'ai appris, j'ai commencé à en faire. Et quand je vois aujourd'hui les festivals, Glastonbury en Angleterre, le Sonar en Espagne, les Vieilles Charrues, tous les festivals que je peux faire dans le monde, c'est grâce à ça.
C'est grâce à ça.
Du coup, ça m'a fait me revisiter. C'est-à-dire, je travaillais avec ce qu'on appelle une Ableton, qui est une petite console, qui est bourrée de samples de mon catalogue. Et
vous jouez avec ça.
Et je joue avec ça, parce que comme je joue que du Seron dans un set, je peux me permettre d'aller où je veux, quoi. Je joue pas des hits de qui que ce soit, je joue que les miens.
Et ça suffit, il y en a tellement, c'est ça qui est bien. Charles Nouveau et les boîtes de nuit, c'est un combo qui nous semble judicieux, c'est un combo en lequel on a confiance, parce que Charles Nouveau a lui aussi connu des lieux légendaires qui ont marqué les gens à jamais.
Et on en partage quelques-uns, Mathieu Noël, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai. Et j'aurais tellement aimé qu'il passe plus de Seron, mais malheureusement c'était rare dans ce genre d'endroit.
Oui, c'était pas aussi bien fréquenté que le Studio 54 non plus.
Alors, une fois à l'urinoir, j'étais à côté du mec qui jouait Warwick dans Les Experts Las Vegas. Excusez-moi d'avoir vécu des choses.
On a hâte d'en savoir plus, mais pour l'heure, on retrouve notre expert musique du vendredi, Camille Diaou. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Camille, cette semaine dans Rétropop, on prend le contre-pied total de l'ambiance Studio 54.
Oui, parce que, n'en déplaise à Seron, 1977 ne se résume pas au disco. Pendant qu'une partie du monde se trémousse sur Staying Alive et se pâme devant le film Saturday Night Fever, une bande de petits Anglais débarque pour tout casser. Un son brut et saturé, une énergie sauvage, agressive. On est à mille lieues du groove de plus en plus polissé du disco mainstream. L'iroquoise remplace les paillettes, on ne danse plus, on pogote, c'est ce qu'on appelle le punk. God Save the Queen, le deuxième single des Sex Pistols, sort le 27 mai 1977. 10 jours, tout pile, avant la célébration des 25 ans de règne d'Elisabeth II.
Shocking.
La date est parfaitement choisie pour cette parodie punk de l'hymne national britannique qui, à l'origine, sonne comme ça. Autant dire que le changement d'ambiance est brutal. Alors dans leur version, les Sex Pistols ne mâchent pas leurs mots, ils s'en prennent directement à la reine, ils dénoncent un régime fasciste, ils décrètent que le rêve anglais n'a plus aucun avenir. No Future For You. Et la pochette, elle est tout aussi subversive. Le visage d'Elisabeth II est barré par le titre du morceau. Sacrilège, les Sex Pistols piétinent tous les symboles sacrés de la monarchie. Le jour du jubilé, alors que des millions d'Anglais sont dans la rue pour assister à la procession de la reine, ils organisent même un concert sur la Tamise en déployant sur leur bateau une bannière. Sa Majesté la Reine souhaite la bienvenue au nouveau single des Sex Pistols.
C'est des génies du marketing, quoi.
Tout à fait. Et même si la BBC bannit le morceau, même si leurs concerts sont interdits, God Save the Queen fait l'effet d'une bombe. En une semaine, le single se vend à 150 000 exemplaires, atteint la deuxième place des charts. Il faut dire qu'il sort à un moment particulier de l'histoire britannique. En 77, le pays vit les conséquences du choc pétrolier de 73. Inflation, montée du chômage, grève à répétition, le Royaume-Uni est au bord de la banqueroute et vient même, vexation ultime, de contracter un prêt du FMI. En fait, c'est la fin des 30 Glorieuses, une sorte de perte de sens, une crise existentielle, pour reprendre le titre d'un docu sur le mouvement punk, un sentiment de déclin de la civilisation occidentale. Et c'est exactement ça qu'exprime le slogan « No Future ».
Mais Camille, les Sex Pistols, c'est pas les seuls punks ?
Non, alors pour être tout à fait juste, les Ramones les ont précédés aux États-Unis. Les Clash sortent aussi leur premier album en 77. Tous partagent en tout cas un discours anti-système et une approche do-it-yourself de la musique. Parce qu'en 77, le rock, ça sonne comme ça. Ça, c'est les Rolling Stones en live en 77. Alors, les punks ne veulent plus de ces solos virtuoses à rallonge. Les Clash vont même aller au clash avec leurs aînés. Traduction, pas d'Elvis, pas de Beatles, pas de Rolling Stones en 1977. Les années 80 approchent, le punk balaye les derniers restes de l'utopie hippie à coups de critiques sociales et désespoir. Et c'est le cas aussi en France d'ailleurs. Tu violes, tu détruis. Ça c'est le groupe Métal Urbain. Ou ça aurait pas plu à Gabriel Attal.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
On l'avait oublié, ça, tiens.
C'était il n'y a pas si longtemps
pourtant. Ouais, c'est vrai, ça va vite.
Bon, de toute façon, le mouvement punk s'est très vite consumé, quasiment autodétruit dans sa furie nihiliste. Les Sex Pistols se séparent début 78, après un seul et unique album.
Mais l'esprit punk, il a survécu, lui ?
Alors, je me suis posé la question en préparant cette chronique. Parce que quand je parle de fin de cycle, de déclin de la civilisation occidentale, bah, ça sonne étrangement contemporain. À l'heure de la montée des populismes, de la crise écologique, les nouveaux punks, ce sont des groupes anglais comme Idols. L'affiliation est évidente, hein, et ce morceau, comme par hasard, il sort juste après le Brexit. Mais moi, je vois aussi des traces de punk chez certains rappeurs très énervés qui provoquent sciemment les institutions. Quand 13 blocs chante et qu'un ministre porte plainte, on pense qu'on veut du message, hein, mais le scandale, un petit arrière-goût de God Save the Queen.
Merci Camille Diao, ben, The Sex Pistols, évidemment, God Save the Queen.
C'est pas facile à dire. Hein.
C'est pas facile à dire, mais en tout cas, c'est maintenant sur France Inter.
Est-ce que je peux dire quelque chose?
Ah bah alors oui, on coupe la musique. Coupez les Sex Pistols, Céron intervient. Céron.
Non. Ah, je voulais simplement dire que l'une des fondatrices du mouvement punk, c'est Lena Lovitch, qui a écrit les textes de Supernature.
Paf. Et ben voilà, paf,
et
un
voilà,
petit coup
d'autopromo.
Et maintenant, on peut écouter les Sex Pistols sur Inter.
God save the queen.
Lui non plus n'a pas eu la chance de connaître le Studio 54, ou peut-être est-ce le Studio 54 qui n'a pas eu la chance de le connaître. En tout cas, Charles Nouveau est avec nous et il pète le feu.
Comme un tiers des Français ces jours-ci, j'ai un peu la crève, je renifle, mais on m'a proposé de parler du Studio 54, alors si je renifle, acoustiquement on est toujours dans le thème, je pense. Andy Warhol, les Village People, Donald Trump et bien d'autres personnalités qui à l'époque faisaient semblant d'être de gauche. Au Studio 54, il y avait vraiment tout le gratin. Mathieu Noël et moi-même avons été dans le même lycée que David Pujadas.
Ah ouais.
Donc le star system ne nous impressionne qu'à moitié. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le Studio 54. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Si c'est déjà la deuxième fois en quoi... Je suis à combien? Je suis à 3-4 chroniques. Ressenti 72, mais je suis à... C'est déjà la deuxième fois qu'on me demande de parler de boîte de nuit. C'est évidemment un coup monté par mon compatriote ici présent, Matthew Christmas, qui chaque semaine cherche un prétexte pour qu'on puisse à nouveau évoquer notre Studio 54.
Oh non,
à nous.
Oh non.
Je parle bien sûr d'un monument de sophistication que les jeunes Genevois n'ont aujourd'hui plus le bonheur, que dis-je, le privilège de fréquenter, le Platinium.
Wow.
De rien pour les droits d'auteur, Alex Gaudino. De toute évidence, Mathieu a besoin de se remémorer ce lieu disparu et cette époque bénite où il portait des t-shirts moulants floqués de messages pailletés spécialement choisis pour aller dans le sens de ses parades nuptiales telles que « Fuck me, I'm famous », alors qu'évidemment personne ne savait réellement qui il était. Mais déjà, on sentait son attrait pour la notoriété et le pouvoir. Il pouvait se lever à l'heure qu'il voulait, son front était encore d'une longueur normale. Il n'avait encore fécondé personne. Peut-on vraiment lui en vouloir de s'accrocher ainsi à son passé? D'autant plus que Mathieu Noël était plus qu'apprécié dans l'écosystème du plat. Ah. Ouais, les connaisseurs disaient le plat. Je vous interdis d'utiliser ce diminutif, vous n'êtes pas légitime. Mais au plat, tout le monde aimait Mathieu, parce que si dans la boîte tu perdais de vue le groupe de kéké avec lequel tu étais rentré à la base, si t'étais seul, à la fois égaré et agoraphobe, c'est là qu'heureusement tu pouvais envoyer un SMS à tes potes en disant « Vous êtes où? Je suis juste derrière le mec en forme de lampadaire. » Oui, oui, au milieu de cet effluve d'hormones et de transpiration, Mathieu Noël surplombait les effluves. Pourquoi vous croyez que c'est le seul qui n'a pas de chaise là dans le studio? Mathieu Noël était un phare et orientant malgré lui la trajectoire titubante de jeunes gens qui slalomaient vers l'échec amoureux. Parce que bien sûr, on aime tous se remémorer les réussites, hein, ça fait toujours plaisir de se rappeler. Et ça dépanne si votre conjoint ou conjointe est désagréable à regarder pendant un acte sexuel. Mais bon, Mathieu Noël et moi-même sommes aussi français, ce qui implique une tendance culturelle à aussi bien se remémorer les échecs, hein, quand même. Et on en a eu des échecs au Platinium, oh. Mathieu Noël. Vous inquiétez pas, je vais pas aller chercher des témoignages. Mais pour ma part, j'ai loupé quelques trucs. Il y a des phases où j'ai encore les ralentis en tête. Et c'est Thierry Gilardi, aux commentaires.
Oh, non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Notamment une étudiante en architecture qui avait pris l'initiative de me harponner sur le dance floor et que je n'ai jamais revue ailleurs ou depuis. Alors comment puis-je savoir qu'elle était en archi? Et bah parce que moi, apparemment, quand une jolie brune m'attrapait la hanche sur la piste pendant que sur les enceintes Rihanna nous suppliait de faire du sale, j'étais le genre de playboy qui usait de tout son charisme pour faire... Et toi, tu fais quoi dans la vie? Aujourd'hui, je ne vais plus en boîte, je bois même pas, hein, parce que les gens ne soupçonnent vraiment pas le pouvoir d'endoctrinement de Merwan Ben Lazar. Mais moi aussi, je repense au Platinium, Mathieu Noël, je comprends. Et quand dans un documentaire sur le Studio 54, j'entends quelqu'un raconter qu'une fois à l'intérieur, les gens étaient complètement libres d'être qui ils voulaient, sans que personne les juge, je me dis que c'est peut-être ça, la vraie grosse différence avec le Plat, parce qu'au Plat, les gens jugeaient. Hein, peut-être un peu trop vite, parfois.
Oui, et surtout vous, visiblement, Charles. Et c'est marrant parce que hors antenne, on parlait avec. J'expliquais à Céron que j'avais l'assentiment de ne pas être né à la bonne époque. Grâce à notre chronique, maintenant, on comprend vraiment pourquoi. Voilà, c'est le Platinium à Genève. C'est pour ça que je suis pas né à la bonne époque. Merci beaucoup, Charles Nouveau. Merci énormément, Céron, de nous avoir fait revivre 77 comme si on y était, en plus à New York. Je rappelle la sortie de ce nouvel album vendredi prochain, Disco Symphonie. Un album à retrouver en live le soir même, puisque vous serez en concert à la Philharmonie de Paris, vendredi prochain donc. Et dès aujourd'hui, toujours à la Philharmonie, on peut retrouver votre batterie qui est exposée dans le cadre de l'exposition consacrée au disco, Disco I'm Coming Out, avis aux fans.
Merci à vous.
Merci à tous les amis, Manon, Camille, Quentin, Charles, merci aussi à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission, Florence Gimalac, Stéphanie Valois, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Aubert et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana. À la technique, Juliette Petit. Zoom Zoom revient lundi, on se penchera sur les JO d'hiver de 2030. Céron reviendra nous annoncer qu'il jouera Supernature aussi à la cérémonie d'ouverture. D'ici là, passez un excellent week-end à l'écoute d'Inter.